Alors, si vous voulez vous lever, on va lire les trois premiers versets de l'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, s'il vous plaît, vous asseoir. Alors, on va faire une brève révision de ce qu'on a vu la semaine dernière et on va reprendre où on était rendu. Mais, juste question de reprendre un peu les principales idées du passage. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6, c'est un des passages les plus controversés de toutes les Écritures. Il y en a d'autres, là, mais ça en est un. Parce que c'est sur ce passage-là que ce qu'on appelle les grandes écoles d'interprétation de l'eschatologie, donc les choses de la fin, tout le prémillénarisme, le amillénarisme, postmillénarisme, tribulation, enlèvement, toutes ces choses-là font partie. Et la doctrine du millénium, donc, de la manière dont tu le comprends, ça peut être un 1000 ans, véritablement 1000 ans, là, comme les années qu'on est habitué de vivre, ou ça peut être symbolique. Mais la différence est énorme dans la compréhension des écoles. Je vous ai donné la semaine dernière les documents, que j'espère que vous avez eu le temps de lire, puis des fois c'est bon de les réviser, parce que ça vous donne une idée, un petit peu, quelles sont les grandes caractéristiques de chacune des écoles, qu'est-ce qu'ils défendent comme point, et voir un peu aussi, si on décide, parce que, je pense que c'est François qui me disait ça un jour, il dit qu'il a parlé avec avec quelqu'un, je ne sais pas si c'était un professeur, il a dit, si vous voulez avoir une bonne compréhension, une bonne interprétation du millénium, étudiez pendant 5 ans, au bout de 5 ans, là, vous ferez une idée. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont nécessairement faciles. C'est un peu comme quand on rentre dans la doctrine de l'élection ou de la prédestination. Il y a des choses qui sont difficiles à saisir, qu'on a besoin d'étudier pour aller plus en profondeur, pour regarder les versets dans leur ensemble. Ça, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui ont fait un travail extraordinaire. Je vous ai parlé la semaine dernière, il y en a un des trois documents là, qui défend la position amillénariste, mais il mentionne, mais quand même, c'est assez honnête, pour présenter les deux autres positions et de dire pourquoi ils croient qu'ils sont pas corrects dans leur interprétation. Ça, on a besoin vraiment de se rentrer ça d'aplomb dans le cerveau parce que on ne peut pas continuer à lire les Écritures et de ne pas avoir de position. Peu importe la position que tu prends, mais si tu veux être conséquent, si tu veux être cohérent dans ta façon de comprendre les choses, il faut que tu fasses un petit effort intellectuel. Si tu n'en fais pas, tu vas lire un livre qui va te dire qu'il va être prémillénariste, tu vas le suivre, puis là, tu vas changer de commentateur, tu vas aller en lire un autre, lui, il va être à 1000, l'autre va être post-1000, tu vas devenir complètement mêlé. Alors, il faut, à quelque part, s'arrêter, prendre le temps, prier là-dessus aussi. Prier, prendre le temps de prier, de demander au Seigneur de nous éclairer pour qu'on comprenne un peu. Juste pour vous donner une idée, moi, quand j'ai fait mes études à l'école biblique, j'étais... Il appelait ça pré-mille, pré-trib. Autrement dit, on m'a enseigné que j'étais une école dispensationaliste, donc j'étais enseigné dans mon école biblique avec ça. Quand je suis sorti de l'école biblique, mais quand tu vois l'école biblique, là, normalement, tu penses que qu'est-ce qu'on t'enseigne, c'est la vérité toute pure, là. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est pas à cause d'une école biblique qui ne peut pas faire une erreur. Alors, Et avec le temps, ben là, c'est drôle pareil à dire, parce que c'est en étudiant plus en profondeur le dispensationalisme que je m'en suis détaché. Bizarre. Plus j'ai approfondi le dispensationalisme, plus je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et là, ça a correspondu avec le temps où j'étais à Québec et j'ai joint l'Église de la Capitale. Et l'Église de la Capitale, ben, il était à millénariste. Au début que je suis rentré là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je parlais avec le pasteur. Je dis, oh, c'est quoi votre position là-dessus? Là, il me dit. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de refaire mes devoirs, de réétudier le système, de voir où que j'avais mal compris, puis de me réajuster. On a tous besoin de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, en général, dans le monde chrétien moderne, il y a beaucoup de personnes qui interprètent ces passages-là dans la perspective dispensationaliste. Le 1000 ans, c'est littéral. Et ça pose un paquet de problèmes dont les documents que je vous ai donnés expliquent les problèmes. Alors, c'est à vous de réfléchir à ça et dire, ça se peut-tu qu'il y ait raison? Puis, si on tort, ben adopte-toi une position puis garde-la pour être cohérent. Parce que quand on lit les Écritures, si on manque de cohérence, à un moment donné, ah, il dit ça à une place, il dit ça à l'autre. Il y a-tu une résurrection, il y en a deux? Tu sais, il faut quelque part se faire une idée par le raisonnement. C'est pas nécessairement si facile que ça. Parce que quand vous regardez, moi, ce qui fait devenir... Il faut devenir jusqu'à un certain point humble là-dedans. Parce que moi, j'ai vu des listes avec les trois positions. Vous l'avez vu la semaine passée, mais nommez juste quelques, peut-être quatre ou cinq théologiens par position. Quand tu regardes les noms, puis tu connais les bonhommes... Puis tu dis, hein, lui, t'as pris mille. Moi, John Gill, c'est un des théologiens que j'admire le plus de tous les théologiens que je connais. Puis il est après mille. Bon, à quelque part, si tu dis des grands bonhommes comme ça, qui sont des théologiens, à quelque part, bien plus savants comme moi, bien plus. Ils ont de la difficulté à se faire une position. Ben, je veux dire, gardons-nous une petite gêne, comme on se dit. Mais ça n'empêche pas d'un autre côté. D'essayer d'avoir une position qui tient debout. Donc, c'est controversé, les positions théologiques sur l'eschatologie, le millénium. Puis, bien souvent, c'est en grande partie basé sur Apocalypse 20, versets 1 à 6. C'est un petit passage, puis qui a fait couler assez d'encre pour remplir toute l'espace ici de l'Église en livres. Puis, je n'exagère pas, là. Fait que c'est complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause que c'est difficile qu'on doit renoncer. Est-ce qu'on renonce à l'élection parce que c'est difficile? Est-ce qu'on renonce à la prédestination parce que c'est difficile? Non. Mais c'est la même chose avec ça. Il faut avoir un petit peu de courage. OK, ça fait qu'on revise un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière et on va reprendre où qu'on était rendu. Donc, je pense que les... William Hendrickson... C'est un petit volume, ceux qui l'ont acheté, Apocalypse, c'est vraiment un bon petit livre. Il ne va pas dans les détails d'Apocalypse. Cependant, au début, dans les premiers chapitres, il élabore sa théorie de comment on se doit d'interpréter le livre de l'Apocalypse si on veut être cohérent. Et l'idée des sept sections, là, plus tu regardes le livre, plus tu te rends compte que oui, il a raison. C'est le même que ça fonctionne. Parce que si on voit, disons, après le chapitre 19, bon, le Seigneur est revenu, il a jugé tout le monde, puis là, il y a encore de la vie après. Fait que là, tu seras porté à penser, le chapitre 20 vient après 19, donc si c'est chronologique, ça veut dire que après que le Seigneur a fait le jugement de le retour, il y a encore de la vie. C'est pour ça que ceux qui croient que c'est chronologique, ils se disent, à quelque part, après le chapitre 19, c'est le chapitre 20, donc il y a encore de la vie. Mais si on ne comprend pas l'idée des sept parties ou des sept visions, à quelque part, on va avoir bien la difficulté à comprendre le livre de l'Apocalypse. Les visions qu'on appelle parallèles, progressives, Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, c'est la vision numéro 1. C'est Christ qui est au milieu des sept chandeliers. L'idée à retenir, c'est que ça recommence toujours au début de l'âge de la résurrection, et ça va toujours jusqu'à la fin, par section. C'est ça qu'on appelle parallélisme, c'est parallèle. Autrement dit, c'est pas mal toujours la même histoire, mais racontée de façon différente dans les différentes sections. Et il y a sept sections. Quand on commence à lire l'Apocalypse, en gardant ça à l'esprit, je vous le dis, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit beaucoup. Puis si on tient pas ça, puis si on voit dans l'Apocalypse quelque chose de chronologique, ah ben si c'est dit au chapitre 12, s'il y a quelque chose qui est dit au chapitre 13, c'est automatiquement parce que ça s'est passé après. Non, ça marche pas de même. Bonjour. Là, il est 10h30. La OK. Je voulais juste mentionner aux gens que, bon, il y a des gens qui arrivent qui ont pensé qu'ils ont changé d'heure. Ils n'ont pas changé. Bon, ils sont juste mêlés. OK, on continue. Donc, les sept visions. Donc, la vision numéro 1, c'est Christ au milieu des sept chandeliers. Chapitre 1 à 3. Vision numéro 2, le livre scellé des sept sceaux. Toujours à retenir que quand on continue à partir du chapitre 4, c'est comme si on recommençait ce qui a été dit à la vision 1. Je ne sais pas si vous saisissez, là. Il faut absolument saisir ça, sinon si on ne saisit pas ça, on a des problèmes. Des visions parallèles, mais le mot progressive est important parce que d'une vision à l'autre, il y a une progression qui se produit pour se rapprocher vers les temps de la fin. C'est important. Alors, ça, c'est, si on comprend bien ce que je viens d'expliquer là, les sept visions, puis que c'est la structure de l'Apocalypse est des parallélismes progressifs. On vient d'éliminer un paquet de gros problèmes on les a pas tous éliminés. Parce que celui qui peut lever la main puis prétendre qu'il comprend l'Apocalypse et l'expliquer puis il y a aucun quelque chose qui fonctionne pas dans tout ça, là. Ben, je pense qu'il n'existe pas encore parce que si vous regardez le nombre de livres qui a été écrit sur l'Apocalypse, des milliers. Par tous des hommes intelligents. Alors, ça veut pas dire que... OK. La vision numéro 2, les livres scellés des sept sceaux, chapitre 4 à 7. Vision numéro 3, les sept trompettes du jugement, 8 à 11. Si vous remarquez dans la page de présentation, la première page, celle qui a un tableau au début, là, vous allez voir que du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 11, l'action se passe, la lutte qui se produit entre les forces du mal et Jésus-Christ et Dieu, ça se produit sur la terre. À partir du chapitre 12, aller jusqu'au chapitre 22, l'action n'est plus sur la terre, mais c'est la contrepartie spirituelle. Autrement dit, s'il y a eu un combat sur la terre entre Dieu et Satan, on le voit dans ces différents chapitres-là, mais toute l'action est sur la terre, chapitre 1 à 11. 12 à 22, autrement dit, c'est que Dieu veut qu'on voit qu'en arrière des événements qui se produisent sur la terre, il y a un autre combat qui se produit, c'est celui entre Satan et Dieu. C'est le combat en arrière. Autrement dit, aujourd'hui, disons qu'on a de l'opposition. Donc, on veut faire de l'évangélisation. Puis, il y a de l'opposition. Elle vient d'où, l'opposition? C'est Satan. Il travaille toujours, lui, à bloquer l'œuvre de Dieu. Donc, la contrepartie spirituelle, c'est que Christ et l'Église persécutée par le dragon et ses acolytes. Donc, la vision numéro 4, la femme et l'enfant mâle persécutés par le dragon et ses alliés, donc les bêtes et la prostituée, chapitre 12 à 14. Vision numéro 5, les sept coupes de la colère, 15 et 16. Vision numéro 6, la chute de la grande prostituée et des deux bêtes, chapitre 17 à 19. Et là, c'est important de voir où qu'on est rendu. Parce qu'après 19, on recommence un autre cycle, un autre parallèle. Autrement dit, c'est encore l'histoire de depuis la résurrection qui se rend jusqu'à la fin. Et Dieu veut nous montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que lui a fait pour que l'Évangile continue à progresser. Donc, l'Apocalypse se divise en sept parties ou sept visions, c'est la même chose. Elles sont parallèles et chacune d'entre elles couvre la nouvelle dispensation tout entière, laquelle s'étend de la première venue de Christ à son retour. Est-ce qu'on saisit bien ça? À chaque fois qu'on change de vision, on recommence au début et on dit la même chose, mais dans une perspective différente. Si on comprend ça, je vous dis que ça devient beaucoup plus clair. Alors, Hendrickson, je veux juste lire l'explication qu'il donne, lui, de son à la page 2. Vous avez la proposition 2. Qu'est-ce que lui est en train de dire? Il dit « Les sept parties peuvent être rassemblées en deux grands groupes. Le premier, chapitre 1 à 11, comprend trois parties. Et le deuxième, chapitre 12 à 22, quatre. Du premier au deuxième, on note une progression. C'est pour ça qu'on appelle ça parallélisme progressif. À partir de à chaque vision, il y a un progrès qui se fait. Dans la profondeur et l'intensité du conflit spirituel. Autrement dit, c'est parallèle, on raconte toujours la même chose, mais on se rend compte que d'un parallèle à l'autre, d'une vision à l'autre, il y a une intensification de la profondeur et de l'intensité du conflit entre Dieu et Satan. Très, très important à saisir. Mais l'Église, au milieu de laquelle se tient le Seigneur, est vengée, protégée, et victorieuse. Le deuxième dévoile l'arrière-plan spirituel et caché de cette lutte. C'est un conflit entre Christ et le dragon, conflit dans lequel Christ et par lui son Église est victorieux. Et après ça, je vous avais mentionné que, bon, Paulin Bédard, Joel Bickey avaient la même position. Et il explique un petit peu aussi, si vous avez révisé vos notes, là, alors on ne reprendra pas ça, mais on avait juste vu à partir du chapitre 1, du verset 1 du chapitre 20, on le reprend à partir de là, on était presque rendu. Satan est empêché. Autrement dit, quand Jésus est venu sur la terre, il a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel avec l'ascension. Mais, autrement dit, si Dieu n'avait pas mis le frein à Satan, l'Évangile n'aurait pas pu se développer et se diffuser dans le monde entier. C'est pour ça que ça, ici, Dieu veut qu'on voit que l'œuvre de son Fils, il va faire en sorte qu'il va limiter le rayon d'action de Satan dans le but que l'Évangile se répand. On prend le verset 1. « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » On a vu la semaine dernière que certains auteurs disent que c'est Christ en personne. D'autres auteurs disent que c'est un ange qui a reçu l'autorité et la puissance de Dieu pour être capable de le faire. Mais moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Mais disons que c'est Jésus-Christ qui est... Autrement dit, si Dieu n'avait pas fait en sorte de limiter le rayon d'action et la puissance de Satan dans le développement de l'Évangile et dans sa diffusion à travers le temps et l'histoire, ça n'aurait pas marché. Dieu veut qu'on sache que c'est lui qui a enchaîné Satan. Mais là, quand on rentre dans l'interprétation de ça, est-ce que c'est une chaîne littérale? Moi, je pense pas. Je pense que c'est une chaîne symbolique. Dieu est capable de limiter l'action de Satan. Il l'a mis dans le puits de l'abîme. Et il a scellé l'entrée au-dessus de lui, de manière à ce qu'il... Ça dit qu'il ne séduisit plus les nations. Dans l'Ancien Testament... Satan avait le pouvoir de séduire les nations et il les séduisait. Dans l'Ancien Testament, c'était incroyable, là, le pouvoir de Satan pour trouver toutes sortes de façons de ne pas adorer Dieu et de s'éloigner du Seigneur de quelque manière que ce soit. Il avait de la puissance et il l'avait établi. Toute la terre était dominée par lui. Après la résurrection, Dieu a voulu que le rayonnement, la capacité du malin soit limitée, restreinte. Alors, on a vu que la semaine dernière, ça disait, après cela ne signifie pas une suite chronologique, mais plutôt la description d'une nouvelle vision. Il dit, après cela, ça veut dire, après qu'il y a eu terminé la sixième, il y en a eu un autre. Et, comme je vous ai dit, elle recommence au début, et il veut qu'on comprenne comment lui a permis, par l'action qu'il a sur Satan, que l'Évangile puisse continuer à se dépendre. Là, j'ai vu un descendre du ciel, qui avait la clé de l'abîme. Alors, on sait que c'est l'abîme, d'après les Écritures, c'est un puits sans fond, dans lequel Dieu a pris Satan et ses anges, et il les a enfermés là-dessus, il a mis le couvercle, puis il l'a barré. Autrement dit, il va rester là, durant tout le temps du développement de l'Évangile dans l'histoire et dans le temps. Puis dans géographiquement. Là. Il va rester là. Et ça ne veut plus dire qu'il n'y aura pas aucune influence, qu'il ne pourra plus agir. Il va pouvoir agir, mais pas de la même façon qu'il agissait dans l'Ancien Testament. Alors, la grande chaîne de la main. Là, on était rendu là. Satan est emprisonné, versets 2 et 3a. Autrement dit, on ne se rend pas jusqu'à la fin du verset 3. Et là, ça dit, « Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » C'est-tu vrai qu'à première vue, ça a l'air de vouloir dire 1000 ans? 1000 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça le millénium. « Et il le jeta dans l'abîme. » Et il l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, si les 1000 ans, c'est une période de temps indéfinie qui part de la résurrection de Jésus et qui se rend jusqu'à ce que ça soit terminé, autrement dit, durant tout le temps de la diffusion de l'Évangile, Satan va être lié dans son pouvoir. Pour empêcher l'Évangile de se diffuser. C'est de même qu'on le comprend. Mais là, ça dit, le fait qu'il soit ligoté ou lié signifie qu'il est mis en prison avec ses anges. Pour nous montrer que c'est une prison, on va juste un petit peu plus loin, dans le chapitre 20, au verset 7, ça dit, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. » Ça veut dire que le puits de l'abîme, c'est une prison. C'est une prison. Alors, il est enfermé dedans, il a encore de l'influence sur la terre, il peut travailler avec ses acolytes, mais il est limité. Dieu n'a pas permis qu'il puisse bloquer l'avancement de l'Évangile. Que Satan soit lié signifie essentiellement deux choses. Premièrement, que Satan ne peut plus garder les gentils, ou les nations inconverties, dans les ténèbres spirituelles. Autrement dit, même si Satan aurait voulu dire, hey, même s'il est venu là, puis même s'il a été crucifié, puis même s'il est ressuscité, ils vont rester dans les ténèbres. Non. Dieu a dit qu'ils vont comprendre. Et on prend dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, et verset 31-33. Le Seigneur, il dit, « Maintenant, se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Autrement dit, mort sur la croix. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. Il est en train de parler de la crucifixion. Donc, la première chose que ça voulait dire, c'est que Satan ne peut plus garder les nations inconverties dans les ténèbres. La deuxième chose que ça voulait dire, c'est que Satan ne peut pas détruire l'Église. Si Dieu lui aurait laissé le pouvoir, pensez-vous que Satan n'aura pas tout fait dans son pouvoir pour détruire tout ça? Les tuer carrément? Nous tuer carrément? Au cours de tous les siècles? Pas rien que le premier siècle, puis le deuxième siècle, tous les siècles. Donc, le Seigneur avait très beaucoup limité. Alors, il ne peut pas détruire l'Église, puis il ne peut pas empêcher les nations. Il ne peut pas empêcher que Dieu sorte certains de ses élus des ténèbres. Donc, que Satan ne peut pas détruire l'Église, on l'a la preuve dans différents versets des évangiles, dans Matthieu 16, par exemple. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu t'en plains ça, que c'est comme le Nouveau Testament est en train de dire qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse, même avant que l'Apocalypse soit écrit. Il dit, toi tu es Pierre, et je bâtirai mon Église. L'Église, ça va aller jusqu'à la fin. Il dit, les portes de l'enfer, autrement dit, les forces les plus puissantes de l'enfer, même s'ils se combineraient, ils ne seront jamais capables d'empêcher que Jésus-Christ bâtisse son Église. C'est quoi bâtir son Église? C'est par le salut, la régénération. Il en sauve un ici, il en sauve un là. C'est ça qu'est l'Église. On est des pierres vivantes. Il vient nous chercher et c'est l'ensemble des pierres vivantes qui forment l'Église. Dans Matthieu 12 aussi, versets 28 et 29. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi, il pourrait piller sa maison. Alors, l'homme fort là-dedans, c'est vraiment Satan. Autrement dit, ça dit, comment quelqu'un pourrait-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait pas... Autrement dit, ça a un lien avec le fait que ce soit lié dans le Nouveau Testament. Il y a une chose intéressante, parce que quand on lit le verset 1 à 3, on voit qu'il utilise quatre noms pour désigner le diable. Bon, des fois, on ne remarque pas ça, mais il y a quatre noms pour désigner le même personnage. Pourquoi Dieu, dans Apocalypse, utilise quatre noms pour parler du même personnage? Bien, probablement parce que le nom signifie une caractéristique de la personne. Et il veut nous montrer les différentes facettes, les différentes caractéristiques de Dieu. Alors, le dragon, ce titre fait référence à sa très grande puissance et à son caractère terrifiant. Un dragon, quand on l'a lu dans Apocalypse 13, qui sortait de la mer, tout ça, un dragon, si on en verra un pour le vrai, des fois on en voit dans les petits comiques, là, tu sais. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est gros, c'est très puissant, c'est... Pourquoi il utilise le nom de dragon pour parler de Satan? C'est parce que Satan est puissant. Tout simple que ça. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le dragon fait référence surtout à la grande puissance et à son caractère terrifiant. Deuxième nom, l'ancien serpent. On n'a pas de misère à se rappeler. Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment il y a eu une chute? C'est le serpent ancien qui a séduit Ève et ensuite elle a séduit son mari. Ils sont tombés tous les deux. Et en tombant tous les deux, l'humanité entière de tous les siècles à venir tombait en eux en même temps. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La chute. Paf. Dieu venait de dire, vous mourrez certainement. Puis le diable, il dit, ben non, vous mourrez pas, voyons donc. Après ça, l'autre nom qui est utilisé pour parler du même personnage, le diable, qui vient du mot diabolos, le calomniateur. C'est quoi une calomnie? Je me souviens quand on était jeune, il nous demandait le vendredi, ça, je pense que c'était le premier vendredi du mois, il fallait se mettre les deux bras sur notre bureau, là, puis là, il nous demandait de faire un examen de conscience, puis de trouver nos péchés. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je confessais toujours des péchés, je ne savais même pas c'était quoi. Je confessais des médisances et des calomnies. Si le prêtre m'avait dit, c'est quoi une médisance, puis c'est quoi une calomnie, on faisait n'importe quoi, autrement dit. Donc, le calomniateur, quelqu'un qui calomnie, c'est quoi? Quelqu'un qui médit, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de vous qui est vrai, mais qui n'est pas nécessairement répétable. Tandis qu'une calomnie, c'est dire quelque chose de vous qui est faux. Pas pareil. Quoique, c'est pas plus intéressant l'un que l'autre, là. Mais Satan est un calomniateur. Donc, il va passer, les Écritures disent qu'il passe son temps à aller et accuser les saints de Dieu. Alors, c'est ça. Apocalypse chapitre 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ça veut dire que Satan, il lâche pas la patate, comme on dit. Il t'accuse tout le temps. Puis ses accusations sont pas toujours vraies. Une médisance, c'est qu'il dirait, « Ah, oh, je l'ai entendu dire telle affaire, c'est vrai, mais... » Tandis que des calomnies, c'est faux. Alors, on appelle le diable, Satan, le calomniateur, parce qu'il aime ça, véhiculer des nouvelles de nous autres qui ne sont pas vraies. Mais ça ne veut pas dire que Dieu le croit pour autant, là. Mais, comme on dit, il s'essaye. Et le dernier mot qui est utilisé, c'est le mot Satan. Les quatre mots sont là. Le dragon, l'ancien serpent, le diable et Satan. Satan vient de l'hébreu, l'adversaire. Alors, qui est l'adversaire de Dieu? Je pense qu'on n'a pas de misère à le trouver. Hein? C'est Satan. Jean, chapitre 8, verset 44. Là, ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui ne va pas sur la terre, tous ceux qui mènent le monde souvent, ils ressemblent à leur père. C'est des meurtriers, des violents, et la même chose que leur père, des menteurs. Alors, on voit que l'influence... Alors, Dieu a donc décrété... que la puissance de Satan serait beaucoup restreinte durant tout le temps entre la résurrection de Christ et sa deuxième venue. On disait tantôt, on répète la même chose. Son activité est encore présente. On le sait qu'il agit encore. Mais il n'a pas la puissance nécessaire pour bloquer complètement l'avancement de l'Évangile. C'est l'œuvre de Christ qui a vaincu Satan. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Dans l'Ancien Testament, toutes les nations du monde étaient sous la domination de Satan, excepté Israël, que Dieu avait fait naître à partir de ses promesses faites à Abraham. Seul Israël avait reçu la révélation spéciale de Dieu et connaissait la promesse du pardon des péchés et du salut éternel promis d'avance en Jésus-Christ. Pendant ce temps, les autres nations en général ne connaissaient pas la vérité, à l'exception de quelques personnes ou groupes mise en contact avec la révélation de Dieu. Les nations vivaient dans l'ignorance et l'erreur. Alors, acte 14, versets 15 et 16, et disant, « Ô homme, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Qui, dans les temps passés, a laissé marcher toutes les nations dans leur voie? » Dans les temps passés, a laissé marcher toutes les nations dans leur voie. Acte 17, verset 30. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On voit la clé de la résurrection là. Alors, durant cette période où l'Évangile sera annoncé à toutes les nations, Satan ne sera plus capable de séduire les nations comme il le faisait dans le passé, car désormais, Satan est lié. Il a été vaincu à la croix. Par conséquent, durant cette période, l'Église de Jésus-Christ pourra prêcher l'Évangile et faire des disciples de toutes les nations. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que si Dieu nous fait comprendre cela de manière à ce que, même si on vit dans une époque où l'opposition contre l'Évangile peut croître, Dieu dit que jusqu'à la fin, jusqu'à temps que l'Église soit complète, jusqu'à les temps soient accomplis, on va pouvoir continuer. Il va nous laisser des ouvertures un peu partout. L'enchaînement de Satan durant toute la période du Nouveau Testament signifie premièrement qu'il ne peut empêcher l'Évangile de progresser dans le monde et deuxièmement qu'il ne peut pas rassembler tous les ennemis du Christ pour attaquer l'Église et la détruire. Pourquoi, à la fin, il dit qu'il faut qu'il détache, faut qu'il soit détaché pour un peu de temps? Parce que quand il va le détacher, Satan va rassembler tous les ennemis de la terre contre Dieu et contre Christ, et c'est là que Dieu va intervenir en les anéantissant. Très intéressant. Alors, le verset 3b, Satan est employé. Donc, Satan va utiliser, Dieu va utiliser Satan pour sa propre destruction. C'est spécial, hein? Dieu utilise son principal ennemi, et c'est son principal ennemi qui va être l'artisan de sa propre perte et de ceux qui le suivent. Il y a de la sagesse là-dedans. Beaucoup de sagesse. Pourquoi faut-il que Satan soit délié pour un peu de temps? Est-ce à cause de sa force qu'il pourra se libérer lui-même? Absolument pas. C'est à cause du décret de Dieu qu'il l'a ainsi déterminé. Satan lui-même sera l'instrument de sa perte et de sa défaite finale. Il deviendra un instrument dans l'exécution du plan de Dieu. Satan rassemblera ses troupes pour la révolte finale, mais le Seigneur s'en servira pour juger ses ennemis, pour établir son royaume éternel. Alors, trois applications. Quand on disait tantôt, quand on écoute un sermon, Dieu veut nous passer un message, Dieu veut nous apprendre des principes, Dieu veut nous donner des choses qu'on apprend et qu'on se doit d'appliquer dans notre vie de tous les jours pour nous transformer, pour nous changer. C'est ça une application d'un sermon. Si après écouter un sermon, il faut que tu retiennes qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner pour, dans le but de changer quelque chose de précis dans ta vie. C'est ça le but des sermons. Puis si on n'y arrive pas, puis si vous n'y arrivez pas à changer quelque chose, C'est parce qu'il faut le demander au Seigneur. Il faut se préparer durant la semaine. Quand on veut venir au culte le dimanche, là, il faut demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi le cœur d'écouter ta parole pour que j'en retire quelque chose, pour que je l'applique dans ma vie pour ta plus grande gloire. » Si on fait juste écouter, puis ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, c'est péché. Tout simple que ça. Alors, trois applications. Louons le Seigneur pour sa toute-puissance et sa grâce infinie. Ça prend de la puissance pour prendre le dragon, le Satan, et toute sa horde de démons pour les rentrer dans le puits de l'abîme. Il contrôle Satan de façon absolue. Satan est empêché d'agir à sa guise et il est emprisonné par décret divin pour permettre l'annonce et la diffusion du glorieux évangile du salut en Jésus-Christ. Cette période où il est lié s'étend de la première venue de Christ jusqu'à sa deuxième venue. C'est important de comprendre le parallélisme progressif. Là. Alors, il va rester comme ça et l'évangile va se répandre tant que... Puis à la fin, à un moment donné, il va le libérer. Et là, il va rassembler tout le monde. Ça va être le grand Armageddon, le jugement final. Deuxième application. Rappelons-nous constamment que chaque section ou vision dépeint l'Église et le monde à partir du premier événement du Christ jusqu'à son retour. Chaque section ou vision recommence au même point de départ historique pour développer le même progrès et pour aboutir au même point final. Ainsi, chaque section ou vision reste parallèle à la section ou vision qui la précède et qui la suit. Cependant, elle ne lui est pas pour autant identique. Hendrickson appelle ce procédé parallélisme progressif. Si on comprend ça, on a déjà compris un gros morceau. Quand on va réétudier, moi je sais bien que si, disons, Dieu me dirait l'année prochaine, tu recommences l'Apocalypse, je serais avantagé par rapport à ce que j'étais avant. Parce qu'il y a certains principes que j'ai compris, que là, si je le referais, ça serait plus facile. Troisième application, lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié pour un peu de temps. Dieu l'utilisera instrumentalement pour rassembler les nations qui sont ses ennemis et ils seront anéantis et jugés par le Seigneur. Ne l'oublions jamais. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.